Alors, le titre de mon message ce matin, c'est
une prière que tout le monde peut faire. Nous lirons les versets 21 à 28. Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, c'est-à-dire qu'il était à Jérusalem, il quitte Jérusalem et il s'en vient dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, verset 22, qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons d'abord te remercier, parce que c'est vrai que nous étions tous des malades, Seigneur, avant de te connaître, peut-être physiquement, peut-être psychologiquement, peut-être, mais surtout spirituellement. Et Seigneur, tu es venu dans nos vies, et tu as accompli ce miracle de la nouvelle naissance, tu nous as guéris, Seigneur, tu nous as donné un nouveau cœur, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon aussi d'agir. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce miracle que tu as opéré dans nos vies à travers la personne de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre ce texte, Seigneur. Nous voulons que tu parles à travers, que tu parles dans nos cœurs, Seigneur, à chacun de nous ici présents ce matin, que nous puissions recevoir vraiment la portion que tu as en réserve pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer dans un esprit d'humilité afin de dire oui à tous et oui, amen, à tout ce que nous entendrons qui vient de ta parole. Seigneur, que l'homme puisse s'effacer, que ton esprit puisse parler ce matin, parce que nous voulons nous rappeler ce que tu dis dans l'Apocalypse, Seigneur. Écoutez ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Béni sois-tu, Père, et merci encore une fois pour les frères et sœurs rassemblés. Et nous voulons avoir une pensée toute particulière ce matin pour ceux et celles qui n'ont pu se déplacer pour une raison quelconque. Que là où ils se trouvent, Seigneur, tu puisses leur faire du bien et qu'ils puissent aussi ressentir ta présence. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, frères et sœurs, notre texte nous parle d'une personne qui vit une situation désespérée. Et elle nous montre aussi, et il nous montre ce texte aussi, comment quelqu'un peut prier lorsqu'il vit une pénible épreuve. Souvent, on cherche dans les Écritures, je vis une telle situation, quel passage que je devrais prendre pour savoir comment m'en sortir. Et cette femme, frères et sœurs, elle va nous bouleverser ce matin. J'espère qu'elle va vous bouleverser. Moi, elle m'a bouleversé en préparant le texte. Frères et sœurs, c'était pas une juive, c'était une païenne, c'était en plus une cananéenne. On sait que Dieu, quand il a envoyé son peuple, qui a fait sortir son peuple d'Égypte pour aller dans la terre promise. Ils ont traversé les territoires cananéens. Dieu n'a pas eu de pitié pour les cananéens. C'était, tu ne épargnes personne, hommes, femmes, enfants, animaux, tu détruis tout sur ton passage. Et ici, on est en présence d'une cananéenne. Et elle a une leçon, un enseignement incroyable, incroyable à nous partager ce matin. Une femme qui vit une situation désespérée et qui va nous montrer, nous rappeler en tant que chrétien, comment quelqu'un peut prier lorsqu'il vit une pénible épreuve. Et cette femme n'a pas eu besoin de prononcer beaucoup de paroles dans sa prière, parce qu'elle n'était pas dans un état d'esprit pour faire une longue prière, frères et sœurs. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche venait du plus profond de son cœur. Et ça, c'est d'abord le secret, frères et sœurs, d'une prière où Dieu va tendre l'oreille. Une prière non pas qui sort uniquement de sa bouche, mais qui vient du plus profond de son cœur. Rappelez-vous Isaïe, ce qu'il disait, « Oui, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur ne m'appartient pas. » C'est ce que Isaïe disait à son époque, et c'est rappelé aussi dans le Nouveau Testament. C'est rappelé dans le Nouveau. Je me souviens pas où, je l'ai perdu. Ah oui, ben voilà, chapitre 15, verset 8. Ah, vous êtes dans chapitre 15, verset 8, regardez ce qui est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et là, il fait référence aux pharisiens qui enseignaient le peuple d'Israël. Frères et sœurs, ces paroles, elles résonnent dans ma tête comme un bruit tellement fort. Trois mots, sa prière, trois mots. Seigneur, secours-moi. Trois mots qui vont ébranler le trône de la grâce de Dieu. Trois mots. C'est incroyable. Mais ça vient du cœur. Secours-moi. Elle n'a dit pas grand-chose que trois mots, mais ces trois mots sont aussi importants les uns que les autres, puisque c'était une question de vie, de mort pour elle, frères et sœurs. Voici une femme qui fait face à quelque chose de terrible, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Sa fille qui était à la maison, elle est cruellement tourmentée, pas par un démon, malgré ce que le français courant écrit, par le démon, nous dit le texte grec. Le démon, le diable. C'est pas n'importe qui s'est invité à entrer chez sa fille. C'est le diable, frères et sœurs. Vous imaginez ce qui va se passer dans cette maison-là. On n'est pas prêt avec une légion de démons, c'est rien à côté de ce que le diable peut faire. Vous imaginez la vie de cette fille, comme elle était ravagée. Et il n'y a aucun moyen pour elle de s'en sortir à cette pauvre femme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend parler de Jésus qui vient dans sa région. Et elle va le trouver parce qu'elle croit qu'il est le seul qui peut sauver sa fille. Une païenne. Elle n'a donc pas l'intention de le laisser aller. Et si elle fait, elle va tout faire pour le garder. Elle va tout faire pour qu'il en soit ainsi. Elle poursuit Jésus. Le texte nous dit pas, Seigneur, Seigneur, en criant après lui, de toutes ses forces. Et même si on la repousse, elle continue à crier. Et finalement, lorsqu'on lui répond sur un ton qui pourrait nous paraître ironique, elle n'écoute même pas. Elle va plutôt se prosterner devant lui. Elle va plutôt se prosterner devant le Seigneur Jésus. Elle va lui dire, Seigneur, secoue-moi. J'aimerais maintenant, ce matin, j'aimerais m'attarder ce matin sur la prière de cette femme. Mais avant d'aborder le sujet de la prière, j'aimerais qu'on regarde ensemble trois difficultés que cette femme va être appelée à vivre avant de pouvoir voir sa prière être exaucée. Et ça m'interpelle parce que je me dis souvent, on vient devant le trône de Dieu pour prier et il arrive une difficulté dans notre vie ou un empêchement et finalement on baisse les bras, on a honte ou on est gêné ou on n'ose pas demander au Seigneur. Et vous allez voir que les trois difficultés ici que cette femme va avoir à faire face, on n'aura peut-être jamais, nous, en tant que chrétiens, à affronter ces difficultés. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, mais je suis certain que ce que vous avez expérimenté ne peut pas se comparer avec ce que cette femme a vécu avec sa fille et les difficultés qu'elle a rencontrées en s'approchant de Jésus. Frères et sœurs, vous êtes chrétiens, je suis chrétien. Il n'y a pas rien qui nous empêche, en dehors du péché, il n'y a rien qui nous empêche de nous approcher du Seigneur. Mais elle, il y a trois difficultés physiques qui vont l'empêcher de s'approcher du Seigneur et elle va persévérer. Et c'est un bel enseignement pour nous ce matin, pour nous rappeler qu'on doit persévérer. Malgré les empêchements, malgré les difficultés, on doit s'approcher du Seigneur. On a un péché dans nos vies qui nous empêche de nous approcher du Seigneur, qu'on le confesse. Qu'on le confesse. C'est un privilège pour le chrétien de pouvoir avoir une audience, obtenir une audience auprès du trône de la grâce de Dieu. La première difficulté et qui aurait pu décourager n'importe qui, frères et sœurs, verset 23, Jésus n'a même pas répondu à ses cris. Lui qui est la parole incarnée, il est écrit qu'il ne lui a pas dit un mot, c'est ce que le texte nous dit ici. Lui qui avait l'habitude de répondre aux prières de ceux qui s'adressaient à lui, il n'a pas dit un seul mot suite à la prière de cette femme. Frères et sœurs, on n'a jamais lu qu'il est arrivé une seule fois à Jésus de ne pas répondre à la prière de quelqu'un dans les Écritures. Et pourtant, ici, il ne lui dira pas un seul mot. Quelle sera la réaction de la femme? Eh bien, frères et sœurs, même si Jésus ne lui répond pas, même si elle ne reçoit aucune promesse qu'il va lui répondre, même si elle ne reçoit aucune parole d'encouragement, ni même une invitation à s'approcher de lui, elle garde espoir et elle s'accroche à Christ parce qu'elle est décidée à ne pas le laisser partir tant et aussi longtemps qu'il ne l'aura pas béni. Et frères et sœurs, c'est le premier enseignement qu'on devrait retenir de cette femme ce matin. Vous criez, frères et sœurs, après le Seigneur dans vos prières. Vous lui envoyez votre prière, vous dites, tu l'as reçu, c'est terminé. Non, cette femme, elle nous rappelle une chose. Seigneur, je ne te lâcherai pas tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. Seigneur, je n'arrêterai pas d'intercéder devant ton trône tant et aussi longtemps que tu ne répondras pas à ma prière, Parce que le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Quand vous demandez en mon nom, vous ébranlez le trône de la grâce de Dieu, vous faites bouger le Saint-Esprit qui va répondre à votre prière. Frères et sœurs, c'est un enseignement pour nous. Quand je disais tantôt qu'en tant que vieux chrétien, on est tellement habitué à prier finalement, écoutez, quand on termine nos prières, on ne sait même pas si on l'a fait dans le but que Dieu nous exauce. On en est rendu souvent à ce point-là. Tellement qu'on est habitué à prier, ça devient une routine. On a une liste de prières et puis on se dit, ben, je fais ma liste de prières, mais sans même, écoutez, avoir à cœur, souvent on perd ça de vue que Dieu, le but pour lequel on vient présenter nos besoins au Seigneur, c'est pour qu'il les exauce. C'est pour qu'il réponde à nos prières. Non, on tombe dans la routine, mais on fait nos prières parce qu'on nous dit que le chrétien doit prier. Oui. Mes frères et sœurs, Jacques, il nous dit une chose, hein. Il nous rappelle dans Jacques chapitre 5. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Mes frères et sœurs, la prière du juste ici, c'est celle qui obtient de Dieu la bénédiction demandée. C'est cette prière de la foi qui fait bouger le bras de Dieu. La prière efficace, c'est celle qui atteint le but qu'elle poursuit, qui obtient de Dieu l'exaucement, frères et sœurs. C'est ça, la prière efficace. Et on en parlait, je ne me souviens pas où, mais frères et sœurs, Jacques prend l'exemple d'Élie. Il dit, Élie était un homme comme vous et comme moi. Et vous vous imaginez, vous lirez le chapitre d'Élie. C'est Élie qui ordonne à Dieu d'arrêter qu'il pleuve pendant trois. C'est Élie qui dit à Dieu. Il faut qu'il arrête de pleuvoir pendant trois ans et demi. Et quand Élie, c'est le moment, eh bien, il va pleuvoir à bout de trois ans et demi. Frères et sœurs, rappelez-vous le passage où il y en a un héros de la foi dans l'Ancien Testament, qui réussit à faire reculer le soleil. On nous dit que dans les degrés de l'escalier, c'est facile de faire avancer le soleil et dire, écoute, avance encore un peu plus vite. On aurait pu dire, c'est de la chance. Mais quand vous voyez sur les marges de l'escalier, alors, la Bible a dit sur les degrés de l'escalier, que vous voyez le soleil qui recule. Et ça, c'est suite à la prière d'un homme. Frères et sœurs, est-ce qu'on a perdu de vue la capacité, le pouvoir qu'un chrétien a à travers la prière, de faire bouger le bras de Dieu? Quand on prie, frères et sœurs, on donne autorité à Dieu d'agir dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Quand on prie pour le salut de nos enfants, est-ce qu'on a la certitude? Est-ce qu'on le fait par routine ou si on le fait parce qu'on est convaincu que Dieu veut sauver nos enfants? Et la femme, ici, elle a un enseignement à nous donner concernant le salut de nos enfants, concernant les exaucements de la prière. Et c'est là-dessus que j'aimerais regarder ce matin, mais d'abord regarder les trois difficultés qu'elle, cette femme a eues à vivre. Chers amis, il n'y a personne parmi vous qui peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne lui a jamais parlé, car il nous a laissé un livre contenant ses paroles. Un livre, écoutez bien, dont cette femme n'avait jamais lu une seule ligne. Elle vivait dans une région où on ne connaissait pas l'Ancien Testament et encore moins le Nouveau Testament, puisqu'il n'avait pas encore été écrit à son époque. Quel privilège nous avons, n'est-ce pas, de pouvoir en avoir au moins un exemplaire à la maison et le consulter librement, et ce, le nombre de fois que nous le voulons. Voilà pourquoi personne ne peut dire que Jésus ne lui a jamais parlé. De plus, pour ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'il veut leur dire pendant la semaine dans sa parole, il vous parle le dimanche lorsque vous venez à l'église. De telle sorte que personne ne peut dire que Jésus ne veut pas lui parler, que Jésus ne lui parle pas. Contrairement à ce que cette femme a vécu, elle s'adresse à lui, il est la parole incarnée. Elle lui fait une prière, c'est épouvantable. Ma fille est possédée du démon, le démon. Et Jésus ne réagit pas, il ne lui répond même pas. Voilà pourquoi je dis que les difficultés de cette femme dépassent de loin les nôtres. Et pourtant, elle ne va pas laisser tomber, elle va insister jusqu'à ce qu'elle ait obtenu ce qu'elle désirait au plus profond de son cœur. Première difficulté, Jésus ne lui répond pas. Deuxième difficulté, encore le verset 23. Une difficulté qui aurait pu décourager n'importe qui. C'est que les disciples de Jésus étaient contre elle. Regardez comment ils réagissent. Ils vont dire, Jésus, renvoie-la! Renvoie-la! Elle crie! Ça nous dérange, elle crie derrière nous! Elle ne cesse de crier en nous suivant! Elle nous dérange! On aura le bol de l'entendre! Renvoie-la, Seigneur! Frère de ça, je suis convaincu que cette femme devait avoir un cœur attristé d'entendre les disciples parler de cette façon. Frères et sœurs, c'était rien à comparer avec le silence de Jésus. Et pourtant, elle va tenir le coup jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Je suis certain que si vous vous présentez devant le Seigneur Jésus aujourd'hui, vous ne rencontrerez jamais les mêmes difficultés que cette femme a connues. Si vous devez le faire, si vous ne le connaissez pas, je vous exhorte alors à imiter cette femme, à persévérer et vous présenter sans hésiter devant le Seigneur Jésus, en vous disant vous-même, « Je veux obtenir la guérison de mon âme, à laquelle j'aspire tant et dont j'ai tant besoin. Je ne partirai pas tant et aussi longtemps que je n'aurai pas reçu cette bénédiction. » Que Dieu suscite dans le cœur de beaucoup d'entre vous ce matin de prendre cette décision. La troisième difficulté, première difficulté, Jésus ne lui parle pas. Deuxième difficulté, les disciples la repoussent, essayent de la repousser, de la renvoyer. Verset 24, une difficulté qui aurait pu décourager n'importe qui et qui a dû être plus grande que les deux premières. C'est lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que tu fais là, toi? » T'es une Cananéenne, j'ai envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une claque, ça, frères et sœurs. Vous imaginez quand vous avez entendu l'Évangile, si on avait dit, le Seigneur, je vous prêche l'Évangile, je dis le Seigneur a appelé seulement les Juifs. Accepter le sacrifice de Jésus. Vous entendez le salut, vous entendez l'Évangile, on vous dit à travers l'Évangile comment être sauvé, à travers la croix, on vous donne des promesses, vous entendez ça dans une salle, et là, le prédicateur, il fait un appel, il dit, « OK, maintenant, ceux qui veulent recevoir le pardon en Jésus-Christ, eh bien, c'est offert uniquement aux Juifs, aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Comment vous seriez déçus, frères et sœurs? Vous avez entendu le message, vous savez comment. Et là, on vous dit, non, c'est pas pour toi. C'est simplement pour un groupe en particulier. Simplement pour ceux qui font partie d'Israël. Pour ceux qui sont des Juifs d'origine. Imaginez la claque que la femme reçoit ici. Ça aurait découragé n'importe qui. Et ça vient pas de n'importe qui, là. Ça vient pas d'un pharisien. Ça vient de Jésus-Christ. Imaginez comment cette femme pouvait se sentir. Et pourtant, au lieu de se laisser décourager par ses paroles, frères et sœurs, elle vient se prosterner en lui disant, « Seigneur, Seigneur, secours-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon aide, Seigneur. Je suis perdu si tu n'interviens pas dans ma vie. Seigneur, viens à mon aide. » Imaginez comment cette femme aurait réagi si elle avait reçu comme enseignement qu'elle n'était pas prédestinée à être sauvée et qu'elle n'avait pas accès à la grâce de Dieu. Imaginez si elle s'était dit, Jésus a raison, je ne suis pas digne de me présenter devant lui. Je ne fais pas partie de ceux qui peuvent recevoir le salut puisque je ne fais pas partie du peuple d'Israël. Peut-être pensez-vous ce matin pour certains que vous ne faites pas partie des élus et que vous n'avez pas accès à la grâce de Dieu. Ne laissez personne vous convaincre de cela. Faites plutôt ce que cette femme a fait. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus. Il semblerait qu'elle s'est dit en elle-même, peu importe que Dieu a envoyé Jésus, ce Messie ou brebis de la maison d'Israël, et non pas aux gens de Tyr et de Sidon, je ne lâcherai pas. Je vais me jeter à ses pieds et lui faire entendre le cri de mon cœur en lui disant, Seigneur, secours-moi. Elle n'a pas arrêté. Vous vous rappelez l'histoire de Bartimée, hein, le fils de Timée? Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le Seigneur s'est arrêté. Regardez ici ce qu'il risque de nous échapper. Verset 22. Regardez comment elle a commencé sa prière. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Pourquoi il a répondu à Bartimée? Pourquoi il a répondu, il n'a pas répondu à elle? C'est vrai que Bartimée, c'est un fils d'Israël. Mais on va voir un petit peu plus loin pourquoi il n'a pas répondu dans un premier temps. Elle a fait la même prière que Bartimée. Est-ce qu'on n'a pas entendu de la bouche de Bartimée? Le cri de son cœur, on ne l'a pas entendu. Les gens ne l'ont pas entendu, mais Jésus l'avait entendu. Seigneur, viens à mon secours. Si vous lisez le texte biblique de Bartimée, Bartimée avait déjà vu. Il dit, Seigneur, fais que je recouvre la vue.
pas fait que je vois, fait que je recouvre la vue. Alors il crie, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, mais dans son cœur, ce que la foule n'entend pas, mais ce que l'oreille de Dieu entend, c'est, Seigneur, secours-moi. Et Dieu va dire, Jésus-Christ va dire, allez le chercher, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Et cette femme, frères et sœurs, elle entend ces paroles, et elle n'obtient aucune réponse de la part de Jésus. Quelle foi! Combien de fois on prie pour nos enfants, on prie pour tel sujet, frères et sœurs, on n'obtient pas de réponse et on abandonne. Est-ce que c'est notre disposition à nous présenter devant le Seigneur qui fait défaut? Pour dire au Seigneur, aie pitié de moi, quelle humilité! Quelle attitude d'humilité, frères et sœurs! Et c'est vrai qu'on a peut-être besoin aujourd'hui, comme les apôtres à l'époque de Jésus, dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Parce qu'avec notre technologie, avec tout ce qu'on a qui nous entoure, Seigneur, avec tout ce qu'on voit, Seigneur, on a perdu de vue comment prier, comment intercéder, Seigneur. Aie pitié. Je me souviens pas où on en a parlé, mais combien de fois on vient là? On est des réclameurs. C'est une génération de syndicalistes, hein. On revendique, des revendicateurs. Et on revendique quand on vient devant la trône de la grâce. Et on oublie que c'est une grâce. Et on devrait se présenter, c'est pas le point en haut. Je revendique la guérison, je revendique sinon. Seigneur, aie pitié. Seigneur, secours-moi. Viens à mon aide. Seigneur, aie pitié, reçois-moi devant ton trône, Seigneur. Entends ma prière. On revendique. Et quand on revendique, la main fermée plutôt que d'avoir les mains ouvertes, le Seigneur se détourne la tête, frère et sœur, parce qu'il ne marche pas dans ce plan-là. Le point fermé, ça peut peut-être nous attirer des augmentations de salaire, mais ça mènera jamais le Seigneur à exaucer nos prières. C'est les mains ouvertes, de crier notre misère devant le Seigneur. Dire, Seigneur, aie pitié, je reconnais que c'est une grâce que tu me fais de te parler ce matin. Aie compassion, hein, la pitié, c'est la compassion. Aie miséricorde. Miséricorde, Seigneur, envers moi. Il a entendu le Seigneur Jésus lorsqu'il lui a dit qu'il n'avait pas été envoyé pour les gens qui habitent dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais elle semblait se dire, si toi, Seigneur, tu n'as pas été envoyé pour des gens comme moi, moi, je suis quand même toujours là. Si tu n'as pas été envoyé pour moi, peut-être que moi, j'ai été envoyé vers toi. Quelle façon de penser de cette femme! Elle était convaincue qu'il y avait un moyen pour elle de contourner cette difficulté. Elle en avait la certitude, même si elle ne pouvait pas dire comment elle pouvait surmonter cette difficulté. N'est-ce pas là la définition même de la foi? Être sûr de ce qu'on espère, être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu, nous dit-il au verset 2, chapitre 11. Être sûr de ce qu'on espère, c'est ça la foi. Et à la fin du chapitre ici, il va dire, femme, ta foi est grande, ta foi est grande. Ça fait pas longtemps, t'as jamais fréquenté l'Église, t'es jamais allé au temple, mais ta foi est grande. Parce que tu parles avec ton cœur. Tu m'as remué. Tu fais bouger le ciel. Quel enseignement, quel exemple pour nous, frères et sœurs. Une païenne. Elle avait sûrement entendu parler de la compassion, de la bonté, de l'amour que Jésus avait pour les gens. Il ne pouvait pas la repousser. C'était impossible pour elle qu'il la repousse. Pas à travers tout ce qu'elle avait entendu sur lui. Et même si elle était indigne, même si elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu, elle s'est présentée envers et contre tous devant lui. Chers amis, je ne peux pas croire que le Seigneur Jésus repousserait un pécheur qui vient à lui. Je ne peux pas porter mon regard vers le Seigneur Jésus et croire qu'il rejetterait quelqu'un qui vient à lui, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie et peu importe d'où il vient. Amen. D'une manière ou d'une autre, cette pauvre femme semblait se dire, « Si je ne peux pas passer par-dessus cette difficulté, je vais la contourner, cette difficulté. » Bien-aimés, lorsque vous devez affronter un obstacle qui vous semble infranchissable, ne cherchez pas à surmonter cet obstacle. Contournez-le en vous rappelant que Dieu est un Dieu gracieux, que Jésus-Christ est miséricordieux. Faites comme cette femme, jetez-vous aux pieds du Sauveur. crucifié, faites-lui confiance. Malgré ce coup dur qu'elle venait de subir en entendant le Seigneur Jésus lui dire, « Je n'ai pas été envoyé pour toi », elle va néanmoins persévérer dans sa prière. Bien-aimé, ce que Dieu nous demande, c'est de nous approcher de Jésus-Christ et de ne jamais le laisser jusqu'à ce qu'il nous accorde ce que nous demandons, parce qu'il a promis que ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder. Maintenant, c'est important d'ouvrir une parenthèse ici. Quand on demande, tout ce qu'on demande au Seigneur, ça doit d'abord le glorifier, toujours le glorifier, toujours le glorifier. Il doit se glorifier. Quand on prie pour le salut de nos enfants, il va nous accorder ce salut. Pourquoi? Parce que ça le glorifie. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle qui se passe. C'est quelqu'un qui est mort spirituellement, qui va naître de nouveau, qui va passer par cette nouvelle naissance et qui va naître de nouveau, qui passe des ténèbres à la lumière. Il est mort, il entre dans une nouvelle vie, la vie en haut. Hein? Ça, Dieu va se glorifier à travers ça. Et on doit persévérer dans cette prière. On doit persévérer dans cette prière. Et ne vous découragez pas, je m'adresse ici aux parents des chrétiens qui ont élevé leurs enfants dans l'Église et qui voient leurs enfants partir dans le monde. Ne vous découragez pas, continuez à prier pour vos enfants. J'ai 65 ans, ça fait 32 ans que je suis chrétien, je suis maintenant convaincu que les personnes les plus difficiles à convertir, ce sont les enfants de familles chrétiennes. On entend des témoignages, j'ai été dans boisson, j'ai été dans drogue, j'ai couru après des femmes, j'ai fait ci, j'ai mené une vie de démon, j'ai mené une vie de ci, une vie de ça. Et là, nos enfants, ils entendent ça, ils sont assis dans l'église, et puis ils entendent ces témoignages-là, ils sont bouleversés. Et finalement, quand ils écoutent ça, puis ils se comparent avec la vie qu'ils ont, ils disent, moi, j'ai pas de péché dans ma vie, quoi. Et c'est d'autant plus dangereux pour nos enfants, parce qu'ils risquent même de se faire baptiser, sans s'être jamais repentis. Parce qu'ils n'ont aucun péché à se reprocher. Quand vous venez d'où je viens, c'est plus facile. Mais quand vos parents vous ont surveillé à partir de la pouponnière jusqu'au groupe de jeunes, et là on vous dit 14-15 ans, écoute, qu'est-ce que ta tante t'a fait baptiser? On oublie de dire, écoute, as-tu déjà réalisé que tu es pécheur dans ta vie? On ne pose même pas la question, on est convaincus qu'ils sont convertis. Il y a des parents qui sont convaincus que leurs enfants sont venus au monde chrétien. Hein? Et je vous dis honnêtement, aujourd'hui, je crois que ce sont les plus difficiles. On a tout fait pour les protéger. Maintenant, s'ils veulent aller dans le monde, ben, qu'ils aillent dans le monde. Hein? On les verra un jour rendre témoignage et j'aurais dû écouter la parole de Dieu. J'aurais dû écouter l'enseignement de mes parents. J'aurais dû écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce que je vous encourage ce matin, continuez à intercéder pour vos enfants. C'est une promesse de la parole. Continuez à intercéder, parce que Dieu veut que tous parviennent à la repentance, Dieu veut que tous parviennent au salut, et vos enfants, ils sont dans le plan de Dieu. Et moi, je vous supplie, je vous encourage à prier. Mon fils Josué, moi, je prie à tous les jours pour lui, je pleure pour lui. Mais il a fait son choix. Et je sais qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il sait où est le bonheur. Il sait où est là. Ils sont attirés. Ils sont attirés, frères et sœurs, par le péché. Et pourquoi ils sont attirés par le péché à l'extérieur? Parce qu'avant de quitter l'Église, ils n'ont jamais été convaincus de péché. Sinon, ils ne seraient jamais allés à l'extérieur. Parce que l'apôtre Pierre nous rappelle que quelqu'un qui a connu la vérité, qui s'est converti puis qui retourne à l'extérieur, c'est le pire. Parce qu'il connaît la vérité, il s'en va pécher, mais il sait c'est quoi la vérité, puis il pêche, ça doit être épouvantable, torturé. Alors, je vous encourage à continuer à prier pour vos enfants. Frères et sœurs, verset 25, qu'est-ce qui nous est écrit? Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Frères et sœurs, nous devons admirer cette femme parce qu'elle a rejeté du revers de la main les paroles qu'elle avait entendues, de la part des disciples. Je ne peux m'empêcher de sourire lorsque je vois les disciples qui disent, renvoie-la, car elle crie après nous. Imaginez-vous, le Seigneur, il fait pas de tri, puis les disciples, eux autres, nous, on est les gardes du corps du patron, quoi, hein, on était choisis, nous. On était élus par Jésus. Donc, toi, t'es digne, toi, t'es pas digne. Alors, on entend crier, ça dérange leurs petites oreilles sensibles. Ils se prennent déjà pour quelqu'un d'autre, les apôtres, frères et sœurs, les disciples, hein. Et, Seigneur, renvoie-la, on n'est pas capable de l'entendre crier. C'est ça, hein, le contexte ici, hein. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un parce qu'il était pas capable de l'entendre crier. Il a simplement ici fait remarquer qu'elle appartenait pas au peuple d'Israël. Le Sauveur ici semblait dire qu'il n'était pas possible pour elle de venir vers lui,
Il semblait lui dire que le chemin était réservé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël et qu'il était venu particulièrement pour les bénir au détriment des autres nations. Mais la femme, elle semblait se dire en elle-même, s'il n'y a pas un chemin de tracé pour me rendre jusqu'à lui, je vais en tracer un. Je vais passer par-dessus les obstacles, je vais contourner les obstacles qui se trouvent devant moi pour m'approcher de Jésus. Elle était tellement convaincue dans son cœur, frères et sœurs, que rien ne pouvait l'arrêter. Quelle attitude, quel enseignement, quel témoignage pour nous. Elle ne pensait pas que son cœur était impossible à traiter pour lui, car elle croyait en sa toute-puissance, et c'est là qu'elle va prier, « Seigneur, secours-moi! » Elle ne pensait pas que son cas était plus grave pour implorer sa pitié. Elle va aller plaider sa cause en disant, « Seigneur, secours-moi! » C'est vrai que je suis une pauvre païenne, mais Seigneur, secours-moi! Les chiens, les petits chiens, hein, parce que le texte biblique, c'est des petits chiens. Les petits chiens, c'est quoi les petits chiens? Hein, ça fait référence aussi aux païens. Hein? Mais les petits chiens, ils sont pas invités à manger à la table. Hein? Les païens ne sont pas invités à manger autour de la table, à festoyer autour de la table des noces de l'agneau. Hein? Ouais. Les petits chiens, les miettes. Je ne sais pas si vous avez un chien chez vous, en tout cas le mien, il a le pif assez bien développé. Hein? Il court après les miettes, il ramasse tout. Hein? Il ne laisse rien traîner. Il n'a même pas besoin de passer l'aspirateur dans la cuisine, il ramasse tout, mon chien. Hein? Mais c'est vraiment cette image-là. Hein? Il en ramasse une, hein? Comme ça, hein, les chiens. Et l'exemple, il est, mais quelle foi! Oui, mais Seigneur, les chiens, les petits chiens, tu peux quand même pas comparer un petit chien à un être humain, Seigneur. T'es quand même pas venu mourir pour des petits chiens, t'es quand même venu mourir pour les perdus. Seigneur, même les petits chiens, on leur permet de manger les miettes de la table. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Quelle foi! Quelle foi! Frères et sœurs, on n'est pas comparé à des chiens. On est comparé à des saints. Jésus-Christ. Les élus qui ont accès à la table du trône de Dieu. Seigneur, même si je suis une cananéenne, Seigneur, aide-moi. Elle plaide avec Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est de voir l'effet que peut produire un tel plaidoyer dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la prière, quand on prie, c'est pas de réciter des paroles par cœur. Quand on prie, c'est un plaidoyer qu'on fait devant le trône de la grâce de Dieu. Un plaidoyer. Quand on se présente, vous savez, c'est quoi un plaidoyer? C'est une question de vie et de mort. Charles Finet, qui n'est pas parent avec Daniel Finet, c'est un ancien avocat qui s'est converti. À chaque message qu'il apportait, lui disait « Je plaide ». Il avait été habitué de plaider devant les tribunaux, de sauver de la mort des gens qui étaient condamnés, des meurtriers, à passer par la potence. Et dans ses messages, il plaidait. Il disait « L'Évangile, c'est une question de vie et de mort. Je m'adresse à des gens qui sont morts spirituellement, je m'adresse à des gens qui sont en vie spirituellement. » Mais il disait qu'il plaidait comme si c'était il les voyait s'en aller vers l'échafaud éternel de l'enfer. Il les voyait partir vers cette prison et il plaidait. Même s'il plaidait de toutes ses forces, ça n'empêche pas qu'il parlait de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à plaider devant le trône. Et il y a quelque chose ici qui va nous montrer que cette femme, elle a plaidé. Je vais essayer de me dépêcher pour y arriver. On va passer quelques passages, mais bon. Frères et sœurs, cette femme nous rappelle que ce n'est pas seulement l'habitude de prier qui amène le Seigneur Jésus à répondre, mais plutôt notre façon de nous présenter devant lui, de plaider devant lui. Elle s'est présentée devant lui en disant en elle-même, Seigneur, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Vous savez qui a déjà dit ça? Le premier qui a dit ça, c'est qui? Jacob. Genèse 32, verset 26. Jacob. Qui a combattu avec le Seigneur, avec l'ange éternel. Et qui a dit, je ne te laisserai pas aller tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. Et quand Jacob, le matin, il s'est levé, il est parti, Jacob a changé de nom, il était passé par une nouvelle naissance. Son nom, c'était plus Jacob, c'était Israël. Il avait combattu, il avait plaidé avec Dieu toute la nuit. Et il a dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nos enfants. Je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas sauvé mon enfant.
Je plaide, Seigneur. Je t'emmène pas une liste de prières, puis tu fais ce que tu en veux. Seigneur, je plaide. Parce que j'ai autant à cœur le salut de mon enfant que toi, tu peux avoir le salut des âmes. On a besoin d'apprendre à plaider, frères et sœurs. Cette femme, elle a plaidé. Nous sommes invités, nous qui cherchons à partager l'Évangile avec les autres, à suivre son exemple. Remarquez qu'elle n'a pas dit « Seigneur, aide ma fille ». Et regardez quand on plaide. Regardez le passage. C'est pas « Seigneur, secours ma fille ». Seigneur, secours moi. C'est pas elle qui est possédée, c'est sa fille. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle s'est trompée. Non, elle plaide. Au début, elle va plaider pour sa fille. Ben non, en mentionnant la situation dans laquelle elle se trouve. Mais elle supplie le Seigneur et plus qu'elle le supplie, plus sa prière devient intense. Qu'est-ce qui est arrivé quand on plaide, frères et sœurs? On prend le problème de l'autre sur nous. Au point, nous avons l'impression ici que la mère, elle plaide pour sa fille, que lorsque la mère plaide pour sa fille, les deux ne font plus qu'un. Et que c'est comme si elle plaidait pour elle. C'est pourquoi elle ne peut pas s'empêcher de dire à Jésus, « Seigneur Jésus, secours-moi, viens m'aider. » Avez-vous compris l'idée ici? Lorsque vous plaidez devant Dieu pour votre classe de l'école du dimanche, vous ne priez pas seulement pour un tel ou une telle, mais vous avez intégré tous ces enfants à vous-même. Et c'est alors que vous plaidez en disant, « Seigneur, secours-moi. » On en a parlé à la réunion de prière chez notre sœur Janine, hein, de la prière. Ouais. Frères et sœurs, quand je plaide mon fils Josué, je pleure parce que je le vois en enfer, je sais ce que c'est la réalité de l'enfer. Je vais pas juste dire, « Seigneur, merci pour les trois que tu as sauvés, puis il en reste un. Sauve-le. » Je vois la réalité de l'enfer pour mon fils. Je comprends que si j'intercède pas devant lui, que s'il meurt sans Christ, il est condamné à passer l'éternité en enfer. C'est pas juste le feu, hein? Le Seigneur Jésus dit, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et à la fin des temps, frères et sœurs, quand il y aura la résurrection des justes et des injustes, ceux qui sont damnés pour l'éternité vont voir ce qu'ils vont avoir perdu. C'est la seule fois qu'ils vont le voir. Ils vont voir ce qu'ils vont avoir perdu pour l'éternité. Voilà pourquoi il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ils vont avoir à pleurer, à le regretter pour toute l'éternité, d'avoir rejeté l'Évangile et de rejeter ce que Christ est en train de nous préparer. Ouais. Ça, c'est l'image qu'ils vont garder pour l'éternité. Ouais. Je sais ce que mon fils risque de perdre. Et même s'il a 21 ans, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et je prie jour après jour pour le salut de mon fils. Parce que je sais que ça fait partie de la volonté de Dieu. Amen. Chers amis, nous avons besoin de saisir ce principe important. Si nous voulons que nos enfants viennent au Seigneur, lorsque nous prions pour nos enfants qui sont perdus, nous devons nous voir, nous aussi, comme si nous étions perdus. Et lorsqu'ils sont sauvés, vous ressentirez la même joie que les anges ressentent dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que cette joie se manifeste dans votre cœur pour tous les membres de votre famille qui sont sauvés, parce que vous faites un avec eux. Et les anges, pourquoi ils se réjouissent? Parce qu'ils savent que l'âme qui vient d'être sauvée va passer l'éternité avec les anges. Les anges, ils sont là pour être avec nous pour l'éternité. Je suis certain que si un enfant de Dieu veut voir des gens se convertir, il doit s'identifier lui-même avec eux. Pensez à la manière de prier de Moïse pour le peuple d'Israël lorsque Dieu a dit, lorsqu'il dit à Dieu, pardon, pardonne maintenant leurs péchés. Écoutez, ça, c'est profond, hein? Sinon, efface mon nom de ton livre. Ouais. Moïse était prêt à voir son nom effacé du livre de vie pour que Dieu puisse faire grâce au peuple d'Israël et sauver le peuple d'Israël. Vous pensez que Moïse est un illuminé? Pensez à la façon de prier de Paul, dans Romains chapitre 9, verset 3. « Je souhaiterais moi-même être maudit par Dieu et séparé de Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. » Qu'il y en ait juste un qui meurt et que tu sauves la race, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à payer ce prix-là. Même prière que Moïse. Ça, c'est des gens qui plaident. Ça, c'est des gens qui ont compris le poids. Le poids qui pèse sur chaque personne qui vit sur cette terre. Un poids éternel.
frères et sœurs, non? 5 minutes. C'est une prière tellement facile et utile. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous dites, Seigneur, secours-moi. Seigneur, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Viens à mon secours. C'est ça la prière, en fait, toute faite. Seigneur, fils de David, Jésus, viens à mon secours. Secours-moi. Secours-moi, viens à mon aide, Seigneur. C'est une prière tellement facile à dire. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes pressé. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez peur. Vous pouvez vous utiliser lorsque vous n'avez pas le temps de vous agenouiller. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous devez prêcher. Vous pouvez l'utiliser avant d'aller travailler ou même en allant travailler. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous vous levez le matin. C'est une prière tellement facile à dire que je ne connais pas une seule position qui pourrait vous empêcher de le dire. Seigneur, secours-moi. Souvent, lorsque vous vivez une situation difficile, vous pouvez l'utiliser et ressentir en même temps que c'est la plus belle prière que vous ayez jamais faite. Souffrez-vous beaucoup? Vous arrive-t-il de vous jeter sur votre lit en vous disant à vous-même que vous ne pouvez en supporter davantage? Ne vous semble-t-il pas alors naturel de prier, Seigneur, secours-moi? Vous arrive-t-il de demeurer réveillé la nuit? Avez-vous déjà tourné en rond dans votre lit, dans des moments particulièrement difficiles, en jetant constamment un œil sur votre réveil matin ou sur votre GSM? Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une bonne prière à faire au milieu d'une nuit agitée. Seigneur, secours-moi. Vous arrive-t-il de vous lever le matin aussi fatigué que vous l'étiez le soir avant de vous mettre au lit? Vos forces, sentez-vous que vos forces vous abandonnent progressivement? Êtes-vous lentement en train de dépérir, au point où certains se disent que bientôt ils ne seront plus là? Il est bon, il me semble de vous rappeler cette prière, Seigneur, secours-moi. C'est la prière d'une femme malade. C'est la prière d'un enfant malade. C'est la prière d'un homme malade. Frères et sœurs, c'est une prière qui convient parfaitement lorsque vous faites face à des moments particulièrement difficiles. Et la parole, elle nous encourage en disant que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve de ceux qui sont pieux. Présentez-vous devant lui en faisant cette prière, Seigneur, secours-moi. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont tentés de poser le pied dans un endroit dangereux pour leur foi? Êtes-vous tenté par Satan? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes exposés aujourd'hui à des tentations qui sont particulièrement difficiles à rejeter, au point où vous êtes pensé même capituler et tout laisser tomber? Voici une prière qui arrive juste à point pour vous et qui vous permettra de tenir le coup et de résister. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aie pitié de moi, secours-moi. Peut-être que vous cherchez désespérément un nouveau travail depuis un certain temps et que vous ne recevez pas de réponse. Il est temps pour vous de dire au Seigneur, Seigneur, secours-moi. Si vous faites cette prière du plus profond de votre cœur, le Seigneur viendra à votre secours. Et c'est merveilleux de voir comment il peut venir en aide à ses enfants. Si vous êtes torturé parce que vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité, si vous réalisez ce matin à travers le message, à travers d'autres messages que vous avez entendus auparavant, vous n'avez pas la certitude d'aller au ciel, c'est une prière, une très très belle prière à faire. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon aide, secours-moi. Dans ta compassion, dans ta miséricorde, pardonne mes péchés. Merci pour Jésus que tu as envoyé sur la croix à payer le prix de mes péchés. Merci d'avoir donné à Jésus ce châtiment que je méritais. Et Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Et Seigneur, je te demande d'avoir pitié de moi et d'effacer tous mes péchés. C'est un modèle de prière, frères et sœurs, constamment utilisé dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps ce matin, vous lirez le psaume 27, les versets 7 à 9. Le psalmiste qui parle de pitié et les belles promesses qui s'en suivent. C'est magnifique, ce psaume 27, versets 7 à 9. Et Matthieu, chapitre 5, verset 19, celui qui est libéré d'un démon. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Quand il s'en va, il va aller dans sa ville. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Vous savez quel témoignage il lui demande de dire? C'est ça le témoignage chrétien. Va dans ta ville et va dire aux autres combien le Seigneur a eu pitié de toi. C'est ça le témoignage chrétien. Va dans ta ville, va dans ta famille, va dire à tes enfants, à tes parents combien le Seigneur a eu pitié de toi. Tu es perdu, tu es sauvé. C'est un pécheur qui a fait de toi un saint. Tu étais sans héritage, un tout nu. Le Seigneur t'a donné le royaume de Dieu. Il t'a donné tout l'héritage qu'il a donné à Jésus-Christ. Va dans ta famille, va auprès des étrangers, Et va leur parler combien le Seigneur était bon envers toi, combien le Seigneur a eu pitié de toi. Frères et sœurs, il n'y a pas de formule magique avec la prière. On est des gens qui sont appelés à développer cet esprit de plaider auprès du trône de la grâce de Dieu. Et commencer en priant, mettre notre liste de côté. Et dire, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, Jésus. Viens à mon aide, parce que je ne sais pas comment prier ce matin. Je ne sais pas comment t'amener mes ceux qui me sont les plus chers. Je ne sais pas comment te prier pour ce monde qui est perdu. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur va répondre à vos prières comme il l'a fait pour la Cananéenne. Amen.